Je veux être le sage qui construit sa maison sur le roc. Et vous ? Il faut être fou de construire sa maison dans une zone de sable inondable. Et pourtant, c'est ce que beaucoup d'humains font, spirituellement. Je voudrais lire avec vous ce matin, sur le thème de la matinée, de ce 17 mars, 1 Corinthiens chapitre 3. Connaissons ce texte, nous avons déjà médité, mais le scribe sage trouve dans son cœur et dans son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. 1 Corinthiens 3, verset 9. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Quand on regarde un peu, si on a le temps et le courage, à l'intérieur de nous, parce qu'on regarde souvent à l'extérieur, on voit parfois que nos cœurs sont un champ de bataille, avec des désirs, des convoitises, des folies, du désordre. Tout ça, ça combat en nous. Notre éducation chrétienne remet un petit peu d'ordre. Mais enfin, il faut quand même l'avouer, en nous, ce n'est pas toujours joli. Et voilà que Paul, calmement, ne s'énerve pas. Il dit aux chrétiens, à moi, à vous aujourd'hui, vous êtes le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que cette maison qui, vous le savez bien au fond de vous-même, n'est pas très bien rangée, a des conflits intérieurs, des crises aussi, eh bien ne savez-vous pas que cette maison est le temple du Seigneur ? Je veux écouter cela aujourd'hui. Mais un temple, il ne faut pas s'enorgueillir en disant « Le Seigneur est en moi, je suis un temple de Dieu. » C'est un temple à construire. C'est un temple en chantier. C'est la vocation, pas de dire « Je suis le temple, mais je construis le temple. Je construis la maison de Dieu. » Et Paul, dans cette lettre, nous dit « Nous sommes au travail avec Dieu. » Nous sommes, le mot est le même en français, collaborateurs, ouvriers avec Dieu, collaborateurs. Heureusement, parce que s'il n'était pas là, tout à côté de nous, je crois qu'on aurait pris des idées nouvelles, on aurait transformé son projet en peut-être en cité balnéaire au lieu de faire un temple. Si nous travaillons, n'oubliez pas que c'est le Seigneur qui bâtit l'Église. Et si c'est toujours lui qui fait toutes choses, et nous devons le reconnaître, même si nous, on fait quelque chose, mais c'est lui qui fait toutes choses par-dessus tout. Merci de bâtir ton Église. Amen. Merci de nous bâtir. Dans chaque prédication, dans chaque lecture que vous faites de la Bible, dans chacune de vos prières, dans chaque culte, chaque réunion de l'Église, Dieu travaille avec nous. Dieu nous construit pour que nous soyons une maison. Il ne délègue pas en disant « Travaillez, travaillez, mes amis, moi je pars en voyage, je reviendrai à la fin du monde. » Le Seigneur, dit l'épître de Marc, l'évangile de Marc, le Seigneur travaillait avec eux. Et Paul répète, le Seigneur travaille avec nous. Et je crois que ce matin, il est à mes côtés pour que j'annonce l'évangile. Il est à vos côtés pour que vous receviez l'évangile. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas les maîtres de notre vie totalement. C'est son champ, c'est sa maison, c'est à lui, nous sommes au Seigneur. Et quand je lis bien le texte, nous sommes son champ, on devrait traduire littéralement, nous sommes son labourage. Nous sommes son champ de labourage. Parce qu'un champ, ça peut être un champ désertique, ça peut être une terre inculte, ça peut être un désert, là. Mais la Bible dit, nous sommes le terrain où Dieu laboure, nous sommes le terrain où Dieu travaille, nous sommes le terrain où Dieu agit. Et il agit cette semaine au milieu de certains parmi nous. Je remercie le Seigneur. Amen. Et puis la maison, c'est la même chose. La maison ici, littéralement, c'est une maison en construction. Ce n'est pas du préfabriqué. Notre vie chrétienne n'est pas préfabriquée avec des principes, des slogans. C'est une maison qu'on construit. C'est un champ en labourage, c'est une maison en construction. Voilà notre vie aujourd'hui. Voilà aujourd'hui ce que j'aimerais vous signaler pour que vous puissiez bien accomplir votre vocation de chrétien. Et Paul va nous montrer comment il faut travailler à notre vie chrétienne. Parce que si nous sommes ouvriers avec Dieu, forcément on a une responsabilité. Forcément que Dieu nous charge d'un programme, d'une mission, on est responsable. Le pasteur ne peut pas endosser toute la responsabilité. Je ne vis pas avec vous jour et nuit. Et même je ne pourrai pas faire ce que Dieu seul fait, ou ce que vous-même vous devez faire. Nous avons une responsabilité et Dieu la jugera, il va la peser, il va la mesurer. Il va, au dernier jour, nous faire passer devant son tribunal. Mais faites attention, le dernier jour, ça peut être demain matin. Parce que nul ne sait si demain il vivra. Et souvent, nous voyons le dernier jour tout à la fin du monde, dans des millions d'années. Ben, ça ne va pas durer des millions d'années. Mais mon dernier jour aussi, ça pourrait être le jour de ma mort. Et que je ne sois pas confus, comme un ouvrier qui rougit, de ce que je n'aurais rien fait. Alors d'abord, il faut poser les fondations. Paul se compare à un architecte, on pourrait dire un maître maçon, parce que l'architecte, pour moi, c'est Dieu. C'est Dieu l'architecte de l'Église. C'est Dieu qui a fait le programme, le tracé de l'Église. Mais Paul, il a été chargé, comme un maître maçon, comme un entrepreneur, il a été chargé de poser sur la terre la fondation qui s'appelle Jésus le Christ, notre Seigneur bien-aimé. Amen. Amen. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Mais l'architecte, c'est le Seigneur. Et ses plans ne changeront pas. L'Église, elle est comme ça. On n'a pas à moderniser l'Église. Comme si Dieu nous disait, bon, ben, ça c'est périmé, ça n'a plus lieu d'être, ça faut déchirer la page. L'Église, elle a été conçue d'une manière définitive. Par contre, il faut la réformer, l'Église. Il faut constamment revenir au plan de Dieu parce qu'on s'en écarte. Il faut avoir le fil à plomb. Il faut bien reprendre les maîtres de Dieu, les directives de Dieu. Et il faut y travailler selon le modèle que nous avons dans le Nouveau Testament. Et puis un autre va bâtir dessus. Voyez-vous, la vie chrétienne, c'est quand même la vivre avec Paul, l'apôtre, parce qu'il nous apporte quelque chose. Il parle toujours aujourd'hui dans l'Église de Rennes, partout. Et puis il faut aussi la construire avec le Seigneur, puis avec les autres, parce qu'on va bâtir les uns sur les autres, on va s'édifier, et puis avec nous-mêmes. Alors nous allons voir ce matin cela. Pour la fondation, il ne faut pas trop en parler, je pense. Il n'y a pas d'autre fondation que Jésus-Christ. Alléluia. On pourrait traduire, il n'y a pas d'autre motivation que Jésus-Christ. Si on va à l'église, ce n'est pas parce qu'il y a de la musique. Oui ou non? Parce qu'il y a Jésus-Christ. Amen. Alors évidemment, on l'entoure, ce Seigneur. On l'aime. S'il y avait dans l'église une autre motivation que le Seigneur Jésus, ce serait une autre religion, ce serait un autre évangile, ce ne serait plus l'évangile de Jésus-Christ. Alors, la fondation, elle est posée. Bon, c'est fait. Hein. On n'a plus à revenir. Bien que, je vous avouerai que la fondation, je la pose. Je la pose à chaque baptême que je prépare, à chaque conversion. Chaque génération, on repose les fondations, mort de Jésus-Christ, résurrection de Jésus-Christ, son retour, on appelle ça les fondements, naissance virginale, inspiration des Écritures, le salut, etc. On repose les fondations, mais on a besoin de les reposer au culte aussi, parce que la vie nous embarque. On vit métro, le boulot, le dodo. On est pris dans un engrenage extraordinaire de kilomètres et de fatigue et de soucis. On a besoin de recevoir le Seigneur, la fondation en nous. Et puis quand on a reçu cette fondation, c'est pas fini. Il faut maintenant vivre avec le Seigneur. Il faut lui parler, il faut partager, le prier sans cesse. Il faut construire aussi la vie de l'Église, la vie des autres. On travaille, on construit sur les autres. Ce n'est pas simple. Hein. Paul ajoute, j'écoute bien cette parole, je vous assure, que chacun prenne garde, parce que ce n'est pas facile, que chacun prenne garde à la manière dont il travaille dans l'Église, dont il travaille dans sa vie, avec les frères et sœurs, avec les autres. Garde-nous du mal, Seigneur. Amen. Donne-nous ta volonté. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, je vais vous dire, c'est comment nous devons travailler, nous. La fondation, c'est fait, il n'y a pas d'autre fondation. Amen. Mais maintenant, comment nous devons travailler? Avec quels matériaux? Le Seigneur nous emploie, je vous rappelle, à construire notre vie chrétienne. Et par le fait, notre vie, l'Église. Quand notre vie chrétienne va bien, l'Église va bien, non? Quand le mari va bien dans la maison, quand la femme va bien dans la maison, le couple va bien. Et quand dans l'Église, chacun va bien, eh bien je vous assure que l'Église s'avance. Alléluia. Alors, il ne faut pas construire n'importe comment. Autrefois, encore aujourd'hui, mais quand les rois prévoyaient de construire un palais, un château, on ne leur faisait pas une cabane au fond du jardin en tôle ondulée même. On leur faisait, vous verrez Chambord, Versailles, on leur faisait quand même des choses pas trop mauvaises. Un peu trop bien, non? Et je pense que pour le Seigneur Jésus, vous ne trouvez pas que nous pourrions construire mieux qu'une cabane de jardin en tôle ondulée? Je crois que nous devons lui construire une vie qui est totalement ouverte à sa présence. Amen. Alors Paul nous cite des matériaux. De l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Quelqu'un me dit, mais où est-ce que je vais chercher tout ça? On a juste ce qu'il faut à la maison. Rassurez-vous, cet or, cet argent, ces pierres précieuses, c'est le Seigneur qui vous les donne quand même. Amen. Le patron donne les matériaux à l'ouvrier. Il ne va pas faire comme les pharaons, aller courir dans les champs chercher de la paille. Débrouillez-vous, cherchez les matériaux. Le patron leur donne des matériaux. Le Seigneur nous donne l'or et l'argent et les pierres précieuses. Et puis, il y a aussi pour construire, je le vois ici, je ne le savais pas, on apprend tous les jours des choses, qu'il y a des matériaux sans valeur. Il y a des chrétiens qui construisent leur vie chrétienne avec des matériaux sans résistance, inflammables, nuisibles, trompeur. Imaginez une maison en paille. La moindre à lui mettre dans la maison, et vlouf, il n'y a plus rien. C'est malin. Ben oui, il y a des chrétiens qui travaillent avec des matériaux tout à fait inadaptés pour la grandeur du Seigneur. Ces matériaux, dit Paul, c'est l'œuvre de chacun. Mais je me pose la question devant vous, où est-ce que je vais aller trouver ces bons matériaux? Parce que j'ai envie de construire du durable, pas vous? On est aujourd'hui dans le durable. Ce n'est pas tout à fait vrai. Hein. Nos machines à laver, au bout de 3 ans, il n'y en a plus. Eh bien, ces matériaux durables, c'est le fruit de la parole de Dieu en moi. La semence donne du bon fruit. Et la parole de Dieu produit en moi des qualités durables, éternelles, qui s'appellent comment ? La foi qui agit. Elle agit dans la fidélité. Elle agit dans la prière. Elle agit dans la patience, dans la confiance en Dieu. Ça, c'est du bon matériau. Ça, c'est de l'or pur. Les matériaux durables, c'est aussi la charité. Je vais citer Paul quand il écrit en grec, la charité qui travaille et qui peine. Parce qu'il n'y a pas de charité tranquille, non. Charité, c'est quand même porter avec souffrance et peine les fardeaux des autres. Cette charité, c'est un matériau durable. Puis il y a l'espérance, la foi, la charité, l'espérance, une espérance joyeuse, pleine d'élan, pleine de... tourner vers l'avenir, on fait quelque chose parce qu'on sait que demain, Dieu bénira l'Église, alléluia. On est là vraiment dans l'espérance. Eh bien, voyez-vous ces richesses qu'on trouve dans la parole, que le Saint-Esprit nous communique, charité, foi, espérance. Ces richesses, ce sont des richesses éternelles. Ce sont les richesses de notre vie chrétienne. Ce sont les richesses de l'Église si elle veut durer. Amen. Je crois qu'il faut une Église accueillante. Il faut avoir un sol bien propre, il faut avoir des chaises propres. Mais l'Église qui va durer, c'est une Église qui aime, qui espère et qui croit. Béni soit Dieu. Amen. Ça va comme matériau? Vous me passerez la commande pour que je la communique au Seigneur. Attention à vous, que chacun prenne garde. Parce que chez certains, ce n'est pas ça. Ils sont chrétiens, ils aiment la parole de Dieu, et voilà que chez certains, la foi est instable, sans énergie, sans fidélité, sans communication. Ils ont une charité qui souffre jamais. Attention ! Une charité sans sacrifice, qui rend pas de service. Ils ont une espérance sans joie, sans élan, sans enthousiasme. Ils ont une vie chrétienne saturée d'égoïsme, de vanité, de choses... De la paille. Attention, ça peut m'arriver. Ça peut nous arriver. Qu'on se trompe complètement, qu'on construise au Seigneur une cabane en bois. Alors que nous avons à notre disposition les grandes valeurs que Dieu aime, dans lesquelles il va vivre dans l'éternité, la foi, l'espérance et la charité, ces choses demeureront toujours. Amen. Faites attention, que chacun prenne garde. quand je dépasse les 130, ça ne m'arrive plus jamais sur l'autoroute. Mais si aujourd'hui je dépasse les 130, je vais te flasher. Ça m'est arrivé une fois. En me disant, ralentis, mais c'est trop tard de toutes les façons. T'es pris en photo. Et voyez-vous, quand on construit sa maison avec de la paille, du bois, du chaume, du foin, il n'y a pas de flash qui dit, attention, tu construis mal, attention, attention. Le Seigneur ne nous dit rien, parce que tout est écrit. Tout est écrit, il faut simplement lire chaque jour la Bible pour savoir si, en s'examinant, si on construit vraiment du solide ou du mou. Alors, le Seigneur nous laisse construire. Mais attention au résultat. Alors, je me pose la question avec vous, avant de prendre la Sainte Cène, quelles sont les valeurs que je porte dans ma vie, que je communique aux autres? Est-ce la miséricorde? Voilà les valeurs éternelles. Voilà où il va habiter le Seigneur. Est-ce la patience, des paroles de grâce, la bonté, la douceur, la gentillesse, la pureté? Comment je vis? Je vous dis ça parce que tout ce que nous allons construire sur la terre, je ne parle pas de votre appartement que vous devez rénover bientôt peut-être, mais je parle de ce qu'on construit en nous pour le Seigneur. Tout va passer un examen. Nous allons passer un examen de tout ce que nous avons fait. Vous le savez? Une épreuve. Ce ne sera plus des mathématiques. Allez, les mathématiciens, on va leur demander autre chose. Ce ne sera plus l'informatique. Ce ne sera plus la conduite au volant. C'est une épreuve par le feu. Et tout ce qui n'est pas conforme, tout ce qui n'est pas juste, digne, du Seigneur disparaîtra et ne rentrera pas dans le ciel. Alléluia. Vous dites pas amen? Parce que j'ai réfléchi hier soir et je me suis dit amen Seigneur, je voudrais pas que les défauts de mon frère entrent dans le ciel. Et mes défauts à moi non plus. Vous voudriez emmener dans le ciel tous vos défauts? Ce serait la panique là-haut. Tout ce qui est mauvais, impur, disparaîtra. Le travail de notre vie, le travail de notre âme sera à un certain moment dévoilé, manifesté, mis en lumière, en plein jour. Vous me direz quand que l'on se prépare. Quand on passe un examen, on se prépare parfois quelques jours avant, mais enfin, il faut bien se préparer. Est-ce avec le temps qui passe, tout à coup, l'examen se fait? Moi, je crois vraiment qu'avec le temps, on montre vraiment de quel bois on est fait. Je crois qu'avec le temps qui passe, on manifeste devant le Seigneur et l'Église, qui le voit bien, on manifeste quel chrétien nous sommes. Ce n'est pas ça le jour. Seigneur, c'est quand notre examen? Ah, c'est peut-être quand on aura une épreuve, une tribulation. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que lorsqu'on passe par des moments d'épreuve, eh bien, on montre au Seigneur si vraiment on est attaché à lui, si on lui fait confiance, si on sait le prier. C'est vrai. Les tribulations, la grande tribulation, ce sera là le moment de mettre sa foi en évidence. Mais je crois que ce n'est pas cela. Le jour de notre épreuve, c'est le jour. C'est-à-dire le jour de la venue du Seigneur Jésus, cherchant son Église. Amen, c'est là. Le retour du Seigneur, ce sera un triage. Séparera le blé et l'ivraie. Séparera le bon et le méchant. Il séparera en nous ce qui est du foin. Et il gardera l'heure. Ce sera le triage au jour de la venue qui approche. La venue du Seigneur. Il y aura un jugement. Vous passerez en jugement devant le Seigneur. Ce jugement ne touchera pas votre vie, votre salut, puisque la Bible dit, quand on est sur le fondement, il sera sauvé. Il sera sauvé. Mais sur tout ce que vous avez fait, le feu éprouvera l'œuvre de chacun. Je m'y prépare. Préparez-vous aussi en travaillant pour le Seigneur. Mais que veut dire éprouver par le feu ? C'est vrai que lorsque le Seigneur va venir, il apparaîtra dans le ciel au milieu d'une flamme de feu. Est-ce que nous allons être brûlés ? Est-ce que nous allons traverser un mur de feu ? Moi, je préfère cette parole de l'Apocalypse. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a des yeux comme une flamme de feu. Ses yeux sont une flamme de feu. Eh bien, voilà le moment du jugement, mes amis, le moment de l'épreuve, de l'examen. Le regard pénétrant de Jésus va sonder tout ce que sa parole a produit en nous, ou ne pas produit. Le regard de Jésus va pénétrer en nous pour regarder tout ce qui est solide, vrai, réel, selon Dieu, comme Dieu aime, juste. Tout ce qui est factice, contraire au Seigneur, sera consumé en un instant, comme de la paille. Tchouf ! Tout ce qui nous a pris du temps, tout ça va disparaître. Mais je vais vous faire une confidence. Je ne sais pas toujours très bien ce que je fais de solide. Parce qu'il y a peut-être des petites choses dans ma vie, dans votre vie aussi. Des petites choses qui ne payent pas de mine, mais qui sont peut-être même méprisées par certains, cachées. Mais des petites choses qui sont des perles. Une amitié, un secours, une prière secrète, une compassion. Des perles. Et puis il y a des grandes choses qui font beaucoup de bruit, beaucoup de tapage, dont on nous sommes vraiment fiers. Et qui partiront en cendres. Alors, ne jugez de rien avant le temps. Ne jugez de rien, mais appliquez-vous à faire ce que le Seigneur vous demande dans sa parole. Amen. Appliquez-vous. Peut-être que dans cette maison intérieure, il y a aussi quelque chose qu'il faut qu'il soit brûlé. On a peut-être mis une idole dans notre temple intérieur. Et moi, pour moi, je pense que l'idole la plus redoutable, la plus affreuse, la plus terrible, c'est nous-mêmes. Moi. Non ? Et là aussi, le Seigneur fera, comme dans le temple de Jérusalem, il fera du ménage. Il chassera les marchands du temple. Faites attention, quand vous construisez votre vie chrétienne, il y a des forces destructrices contre vous. Ne croyez pas qu'on va vous laisser faire. On va vous en empêcher. On va vous contrarier. On va vous humilier. On va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Et vous, eh bien, il ne faudra jamais retrousser. Il ne faudra jamais baisser les bras. Il faut toujours construire. Et quand on vous frappe, il faudra être patient. Et quand on vous injurera, il faudra pardonner. Il faudra continuer de construire. Parce qu'il en va de votre gloire éternelle. Amen. Que Dieu bénisse l'Assemblée. Amen. Parlons quelques instants pour finir sur l'épreuve du feu. Si le travail de notre vie tient bon, si vraiment on a mis dans notre vie la charité, la foi, l'espérance, l'amour des frères, etc., nous recevrons un salaire. En grec, j'aime mieux salaire que récompense. Mistos, c'est salaire. Une paye. On aura une évaluation. Ce salaire, je le répète, n'est pas le salut. Paul le dit, il sera sauvé. Même s'il ne fait que de la paille. Même si c'est un fabricant de paille. Il sera sauvé, mais au travers du feu. Le salut, c'est un don de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Il ne dépend pas de nos œuvres. Ce n'est pas une récompense. Ce n'est pas un salaire. Mais si nous avons reçu, si nous avons vraiment les matériaux durables, pensez que nous aurons un salaire qui sera une grâce parce que vous aurez fait une chose, il vous rendra au centuple. Vous aurez donné un verre d'eau, il vous en donnera une barrique. Vous aurez donné de l'amour, il vous en comblera. Même le salaire sera encore une grâce. Tout est grâce en lui. Alors nous recevrons du Seigneur quelque chose. Une couronne impérissable. On ne brillera pas tous de la même façon dans le ciel. Les étoiles ne brillent pas de la même façon, dit Paul. Et il y aura des étoiles plus brillantes que d'autres. Et parfois des gens simples qui brilleront comme des étoiles parce qu'ils ont vraiment accumulé dans leur vie beaucoup de perles et beaucoup de trésors durables. Amen. Merci Seigneur pour l'Église. On ne la connaît pas très bien, l'Église. Il y a des choses secrètes, cachées, belles. Quant aux mauvais ouvriers, le feu consumera leur travail. C'est-à-dire la vie sincère, la vie chrétienne, pardon, sans humilité, sans sincérité, le double face, tout ce qui est engagement sans suite, oui et non, etc. Toute la parole qui a été reprise, on a dit oui, puis après on a repris sa parole, on appelle ça des parjures. Alors là, tout ça, ce sera consumé. Lui, il sera sauvé à travers le feu, parce qu'il est sur le fondement. Merci Seigneur, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Il y a des gens parfois dans la vie qui n'ont pas été faciles, mais bon, merci Seigneur, ils seront sauvés parce que tu connais ceux qui t'appartiennent. Amen. Enfin, frères et sœurs, ne visez pas ça. Ne dites pas, oh, bah, vous savez, l'essentiel c'est d'être sauvé. Je l'ai entendu déjà de la part de certains. Mais l'essentiel, frère, c'est d'être sauvé. C'est comme si que vous êtes invité à un grand mariage, magnifique mariage de la fille du président de la République, admettons, et puis vous arrivez là-bas en t-shirt, en sandales, tout le monde est un peu choqué, mais le principal, c'est que je sois là. Enfin, on vous aurait prêté une robe, on vous aurait prêté un vêtement. Et je pense que, bien sûr, l'essentiel, c'est d'être sauvé, mais faisons honneur à Jésus-Christ. En ayant un salut glorieux, un salut plein d'amour et d'espérance et de joie. Amen. Perdra sa récompense. Vous savez ce que ça veut dire? Il perdra une place d'honneur. Perdra le travail de sa vie. Je vais aller plus loin. Jésus perdra un honneur. Parce que quand on a un fils qui réussit, on dit, voilà mon fils. Il est devenu président, directeur général. On est content quand même, non? Mais quand le fils a gâché tout, a tout gaspillé, c'est un déshonneur pour le père. Quand il a cassé toute la maison, il s'est souillé. Et je crois que devant le Seigneur, son honneur, c'est de dire, voilà mon serviteur, voilà ma servante. Ils ont tenu, ils ont agi, ils ont fait des belles choses. Ce sera un honneur pour lui et pour nous. Amen. Sauvé au travers du feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne pensez pas au purgatoire. Parce qu'on m'a dit, le purgatoire va servir à nous purifier, à nous sauver. Non, il n'y a pas de purgatoire. Sauvé comme à travers le feu. Mais quel est ce feu? Moi, j'ai pensé au feu de la honte, au feu de la confusion, au feu de la douleur, de voir que suite à des mauvaises réactions, à des mauvais choix, suite à de la séduction dans le monde, nous avons perdu la majeure partie de notre existence. On sera confus, on sera honteux, malheureux. On sera sauvé au travers du feu. Ce temple qu'il nous faut construire, c'est donc le lieu très saint. Paul, il est clair là-dessus, c'est le sanctuaire du Saint-Esprit. C'est la maison où réside Jésus. Dieu pouvait choisir le cosmos pour habiter, mais non. Il pouvait choisir une belle maison qu'on pourrait lui construire, le temple de Jérusalem. Non. Là où Dieu se plaît, c'est dans le cœur de l'homme qu'il l'invite. Et c'est le mot vraiment dans le grec, c'est le mot lieu très saint. On construit le lieu très saint où le Seigneur personnellement habitera. Que Dieu nous bénisse. Je conclus. Gardons, frères et sœurs, dans nos vies la piété. La piété, c'est quoi ? C'est la relation avec la présence de Dieu qui est en nous. Travaillons avec Dieu. Écoutons sa parole tous les jours. Cette piété, cette collaboration, c'est une charpente dans la vie. On a besoin d'hommes solides, de femmes solides, de femmes et des hommes de Dieu qui, le visage découvert, sans honte, montrent une lumière à l'Église. La piété, la relation avec Dieu en nous, donne à nos joies, à nos souffrances, à nos chagrins, une force, une lumière, une présence. Si on n'a pas cette relation, on se détruit comme une maison sans charpente. Le toit, il bouge. Mais si on a en nous cette relation avec Dieu, on se renouvelle de jour en jour. Amen. Notre être intérieur se renouvelle jusqu'au jour où Dieu saura tout en tous. Ça me paraît extraordinaire. Dieu saura tout en tous. Mais pour l'instant, si quelqu'un m'aime, dit le Seigneur, il gardera ma parole. Le Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Prions le Seigneur. Fais de nous des bâtisseurs, fais de nous des ouvriers, fais de nous des frères et sœurs qui se tiennent à côté de toi, à côté les uns des autres, et qui construisent la vie chrétienne et l'Église avec tout ce que tu nous donnes, toutes les diverses grâces que tu as déposées dans ta parole et dont nous voulons nous saisir. Que nous ne soyons pas des ouvriers qui détruisent, sinon nous serions nous-mêmes détruits, mais des ouvriers qui construisent avec toi, construisent ton œuvre sur la terre et pour l'éternité aussi, car ce que nous faisons aujourd'hui est éternel. Seigneur, donne-nous de prendre garde à nous-mêmes, donne-nous de ne pas gaspiller notre temps, de ne pas aller de droite et de gauche, mais à considérer bien tes enseignements et à mettre en pratique tout ce que tu nous as donné pour que la maison soit construite sur le roc et qu'elle soit solide et qu'elle soit ta maison, mais aussi notre maison. Amen.